Le 21 septembre 2012, en la basilique de Tirrenbach, le père Nicolas Butet a donné une conférence sur le thème de l'adoration eucharistique qu'il a intitulée « La stupeur eucharistique ». Le père Nicolas Butet est né en 1961. Juriste de formation et ancien député au Parlement du Valais en Suisse, il a collaboré à Rome au Conseil pontifical Justice et Paix. En 1992, il se retire pendant 5 ans comme ermite et en 1997, il fonde la Fraternité Eucharistein. Le père Nicolas Butet anime le groupe Dorothée et Nicolas de Flux. Il est également l'inspirateur de l'Institut Philanthropos à Fribourg. Nicolas Butet a publié 3 ouvrages sur le thème de l'Eucharistie, « Aimer et faire connaître l'amour »,« Brûler au soleil de Dieu » et « L'Eucharistie à l'école des saints ».
J'aimerais vous dire, dans un premier temps, comment j'ai redécouvert l'Eucharistie. Ben, c'est quand même important de voir pourquoi. Et puis ensuite, on va essayer de voir, depuis le Jeudi Saint jusqu'au tabernacle, jusqu'à l'adoration, jusqu'à la communion, quelles sont les grandes clés pour entrer dans ce mystère. Vous savez, quand on parle de l'Eucharistie, on balbutie, on dit quelques mots. Une fois qu'on a tout dit, on se tait parce qu'il ne faut rien dire. Il est là, disait le curé d'Ars, et on s'agenouille, on adore, on capitule. Mais n'empêche qu'il faut quand même quelques mots pour que l'amour grandisse à la connaissance du mystère et que la connaissance du mystère nous fasse craquer d'amour devant Jésus présent. Alors à l'époque, j'étais encore dans un stage d'avocat, j'étais en politique et je m'occupais dans cette étude d'avocat où je travaillais d'un jeune qui avait violé, brûlé cet enfant. Je voyais cette tragédie qui était là, cette souffrance des familles. Je voyais aussi tous les problèmes de divorce qui se posaient et de division dans les couples. Je voyais les querelles financières qui étaient là, enfin, vous voyez, le boulot normal d'une étude d'avocat où un petit peu tous les drames humains se trouvent concentrés. Et puis mon cœur criait en disant « Mais qu'est-ce qui va changer ce monde ?» Et je comprenais que c'était l'amour, la vraie révolution qu'il fallait faire. Et je me disais « Si au moins toutes ces personnes changeaient leur cœur. » Vous savez, quand on pointe quelqu'un du doigt, il y a 3 doigts qui vous pointent vous-même et qui vous disent « Et le tien ?» Et alors, je me suis retrouvé confronté à devoir aussi faire ce chemin pour moi. Et à l'époque, j'avais un ami qui se trouvait en Italie, dans une maison d'accueil de personnes handicapées fondée par le père Giuseppe Cottolengo au XIXe siècle, un contemporain de Don Bosco. Et je me suis dit « J'irai passer Noël, mes vacances de Noël, au Cottolengo, à Turin. » Alors je l'appelle. Il me dit « Est-ce que tu as déjà travaillé avec des personnes handicapées ?» Je dis « Non. » Il me dit « Tu sais, certains arrivent là, ne défont pas même leur valise. Tu ne seras pas le premier si ça t'arrive. » Bref, je me trouvais à l'époque au Parlement suisse, une session de 3 semaines, assez intense. Et je quitte le Parlement autour du 20 décembre pour aller à Turin. Petit détail qui a son importance, vous allez le comprendre après. Je me suis arrêté chez ma sœur qui venait d'avoir un petit bébé, mon petit neveu. J'avais à peine vu, enfin il y avait quelques mois déjà, mais j'avais vu une fois je crois, ou 2 fois à peine. Et puis j'ai dit, j'irai saluer ma sœur, embrasser mon petit neveu, leur souhaiter un joyeux Noël, et puis je partirai à Turin. Et je m'arrête chez ma sœur et elle est en train de longer mon petit neveu. Vous savez, quand on longe un bébé, les mamans parmi vous et les papas aussi sans doute le savent, il y a des effluves qui se dégagent des langes, ça caresse le sens olfactif, et en fait ça pue. Et quand je me suis penché sur mon petit neveu pour l'embrasser, j'ai eu ce phénomène physico-chimique qui s'est déclenché. Je me suis retiré en arrière en faisant coucou à mon neveu de très loin et en disant que ma sœur avait beaucoup de mérite. Alors j'arrive au Cottolengo, je passe un peu les détails, je rencontre cet ami et le soir, vers 10h du soir, il me dit « on va aller se coucher ». Ce qui me réjouissait beaucoup parce que j'étais fatigué. Il me dit « on va juste voir avant si les malades dorment bien ». J'espérais qu'il dorme bien, et en fait, il dormait assez bien, mais quand on a ouvert la porte du dortoir où se trouvait 20 malades, il y avait une odeur qui se dégageait. Mon petit neveu, c'était du gâteau à côté. Sur 20 malades, 18 étaient pleins de la tête aux pieds. Et le frère me dit, on va aller les nettoyer. Alors, je dis oui, demain matin. Il m'a dit, est-ce que toi, tu aimerais dormir dans cet état? Je dis, non, pas trop, c'est pas... Il dit, tu sais, ils sont faits comme toi. Je dis, mais je sais pas si toi, t'es fait comme moi, parce que moi, les odeurs, tu vois, j'ai un petit problème. Et j'ai dit, j'ai un truc génial à te proposer, on ouvre la fenêtre, on va se boire un bon café italien, on revient dans une demi-heure, puis là on va essayer de travailler, mais ça aura déjà un petit peu aéré. Il me dit, écoute, ton idée, elle n'est pas très intelligente, parce que si on fait ça, dans 10 jours, il meurt tous d'une bronchopneumonie. Je dis, ouais, c'est pas le bon truc. Et je rêvais d'un masque à gaz à l'armée, vous savez, j'étais dans l'armée suisse, on déportait un masque à gaz dans les exercices. La seule fois où il m'aurait servi, je ne l'avais pas. Bref, je suis rentré en apnée. Après, il a quand même fallu respirer. Il m'a expliqué comment il fallait faire. C'est assez simple, vous savez. C'est pas besoin d'avoir fait des longues années d'études. Vous nettoyez, après c'est bon. Et le frère me dit, toi tu commences à gauche, moi à droite. Quand on se rend compte, ça sera fini. C'est la première parole sensée de la soirée que j'entendais. Et alors, je lève la première couverture, je vois ce qu'il y a dessous. Je dis non, c'est trop sale. Lui, il a 10 ans de maison. Les plus sales, c'est pour lui. Moi, je ferai les moins sales. Je vais vers le deuxième, même chose que le premier. Je dis bon, ok, je reviens en arrière et j'y vais. Ça a duré 2 heures. Alors, j'ai expérimenté la première chose, c'est la grâce de Dieu. J'avais été incapable de supporter mon petit neveu quelques heures auparavant. Et là, je passais 2 heures avec des adultes et une odeur absolument inimaginable. Première expérience bouleversante, une joie qui m'envahissait. J'avais dépassé mes petites émotions pour redécouvrir le visage du Christ dans ces personnes. La plupart étaient grabataires, donc absolument sans réaction particulière. Ou s'il y avait une réaction, il valait mieux l'éviter parce que ce n'était pas tout à fait agréable. Et puis, du coup, j'étais plus fatigué à la fin. Ça, c'était l'avantage. On a fini vers minuit et demi comme ça. Et puis, il y avait l'adoration du Saint-Sacrement dans cette maison. Et je suis descendu à la chapelle. Je suis arrivé devant le Saint-Sacrement. J'allais communier j'ai fait ma première communion à l'âge de 7 ans. Donc, j'avais des années. J'avais 26 ans à l'époque. J'avais fait une interruption de 3 ans quand même avant ma reconversion. Mais donc, j'avais été communié pratiquement tout le temps pendant 22 ans, disons. J'avais dit Amen quand je recevais le corps du Christ, et j'avais déjà vu une hostie de ma vie. Arrivé devant le Saint-Sacrement, là, qui était exposé sur l'autel, je ne sais pas comment vous dire, c'était la stupeur eucharistique. Une certitude, c'est le Christ qui est là. Jésus est là, celui que Marie a reçu dans son sein, celui qu'elle a porté dans ses bras, celui qui a travaillé avec Joseph comme charpentier, celui qui est mort crucifié, qui est ressuscité, qui est apparu aux saintes femmes, à Paul, qui est assis à la droite du Père. Il n'a pas le même look, il n'a pas la même apparence, il a l'apparence d'un bout de pain, mais c'est Jésus qui est là. Et une certitude que le Christ était vivant à cet endroit-là. Vraiment, c'était, oui, vraiment un émerveillement et une certitude de sa présence. J'avais vu son corps malade sur les lits juste avant. J'avais reconnu son visage dans ces personnes handicapées, mentales et physiques. Et puis là, tout d'un coup, je le reconnaissais, lui aussi un peu défiguré, un peu handicapé extérieurement. C'est-à-dire, l'apparence d'une matière inerte, ce n'est pas la chose la plus bouleversante et la plus frappante. Comme dit le prophète Isaïe, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et c'était lui qui était là, vraiment. Voilà. Alors, pour moi, c'était une révolution, cette découverte de Jésus présent au Saint-Sacrement. Et depuis ce moment-là, donc c'était en 87, je crois que 86-87, je crois que j'ai toujours eu l'occasion d'adorer presque tous les jours de ma vie depuis ce moment-là, alors que j'étais encore laïque et que j'étais pas prêtre. Voilà, donc ça c'est le cœur. Ensuite, que nous dit l'Eucharistie et qu'est-ce qui nous est donné? Voyez-vous, je crois qu'il y a une expérience que Dieu veut nous faire faire, c'est que nous sommes aimés par lui, vraiment aimés. Que nous valons le prix du sang du Christ, que chacun d'entre nous a été aimé jusqu'au point que le Christ donne sa vie pour nous, pour chacun, chacune. Et pas seulement une goutte de sang, tout son sang, et pas pour la multitude des hommes, pour chacun et chacune. Sur la croix, les mystiques nous disent que le Christ a vu nos visages défiler et a prononcé chacun de nos noms en implorant la miséricorde de son Père sur chacune et chacun d'entre nous. Et donc, si vous voulez, pour découvrir de quel amour nous sommes aimés, il fallait se trouver au pied de la croix. C'était au Golgotha, à Jérusalem, il y a 2000 ans en arrière. Seulement, on n'était pas tous là. Je ne sais pas vous, mais je ne crois pas. On n'avait pas la possibilité matérielle d'être là en raison d'être venu dans l'histoire, dans le temps et la répartition géographique. Et pourtant, c'est au pied de la croix qu'il faut découvrir cet amour. C'est vous. Dans la croix du Christ, on parle des caricatures ces jours-ci, tout ça, le premier qui a été caricaturé, c'est Jésus, voyez-vous. On l'a mis une croix, c'était la pire des caricatures, c'était la pire des insultes, c'est la pire des choses. Et pire, c'est que nous, on porte la caricature autour du cou. Et pour nous, c'est notre plus grande espérance, c'est notre plus grand salut. Si on fait une révolution, c'est pour annoncer l'amour du Christ crucifié. Si on manifeste dans les rues, c'est pas pour casser les choses, c'est pour dire qu'il nous a aimés jusqu'à cette folie. Vous voyez, la caricature est devenue le signe même de l'amour de Dieu. On n'a pas eu peur. Le Christ n'a pas eu peur d'être caricaturé. Parce qu'il s'est fait pauvre, il est descendu. Et donc, c'est là, ce signe que nous portons, C'était le signe le plus ignoble. Cicéron, un grand avocat romain qui a vécu juste avant le Christ, disait « Quant à la croix, je n'ose même pas prononcer le nom, tant toute ma chair en tremble et ma chair s'hérisse à l'idée de la croix. » Et nous portons aujourd'hui cette croix. Et cette croix, elle est vraiment la manifestation de l'amour de Dieu pour nous. J'ai eu la grâce de travailler à Calcutta dans les mouroirs de Mère Teresa. Je me souviens qu'un jour, on a amené un homme qui avait plus que les os et une peau rongée par les bêtes par-dessus. C'est le seul langage universel, c'est de prendre les gens dans les bras, de leur dire qu'on les aime, comme ça. Je ne parle pas la langue, je ne parle pas le bengali. Je ne parlais pas anglais, donc j'ai pris cette personne dans les bras. Et puis, il m'a fait comprendre qu'il désirait une sorte de friandise indienne. Et donc, j'ai été lui acheter cette friandise à l'extérieur. Quand il a vu arriver la friandise, les yeux ont commencé à s'éclairer. Et puis, il n'a pas réussi à avaler. Et puis, il voulait ensuite une sorte de boisson au grapefruit. Alors, j'ai acheté la boisson, il la voit et de nouveau, ça s'éclaire. Et puis, il n'a pas réussi à avaler non plus. Puis, il me demande ma croix. Il était manifestement hindou. Et donc, je ne voulais pas lui donner un signe contraire à sa religion. Puis, il insiste tellement que je lui mets la croix dans sa main. Puis, il me dit non, non, autour du cou. Alors, je mets la croix autour de son cou, sur son corps décharné. Et puis, avec le peu d'énergie qu'il avait, il a monté les mains pour me dire merci. Les Indiens font comme ça pour dire merci. Et donc, il me fait le signe du merci. Je le quitte quelques temps plus tard, quelques instants plus tard. Je vais vers d'autres malades. Et puis, trois quarts d'heure après, à peu près, je passe au pied de son lit. Et je vois qu'il est en train de partir, de mourir. Alors, je le prends dans les bras et je lui demande s'il ne veut pas que j'enlève la croix pour pas qu'il meure avec un signe contraire à sa religion. Et il m'a fait signe non. Avec le peu de force qu'il avait, il a pris la croix, il l'a portée sur ses lèvres, il l'a embrassée. Il l'a serrée comme ça. Il est resté un moment. Et tout d'un coup, ça lâchait. Il était parti. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans son cœur. Je ne lis pas dans les cœurs. Dans le mien, j'avais qu'un désir, c'est d'accrocher toutes mes prières à son âme pour qu'il les porte directement en haut chez le Big Boss. Je me dis, il a quand même eu de la chance. Jusqu'à maintenant, il a vu ma tête. Après, il voit la tête du bon Dieu. Il gagne au change. Et puis, quelque part, je me suis dit, je ne sais pas ce qui s'est passé dans son cœur à lui. Mais c'est comme si, quelque part, dans ce baiser de la croix, c'est Dieu qui le rejoignait en disant, mais ta souffrance, c'est moi qui la porte. Je ne sais pas, je ne pense pas qu'il avait dû entendre une fois parler de Jésus. Mais Jésus avait entendu parler de lui. Sa souffrance, sa croix, sa peine, Jésus l'avait portée. Depuis le Christ en croix, il n'y a plus une croix sans un Dieu dessus. Il n'y a plus une croix qu'un homme porte, où qu'il se trouve, sans que l'amour de Dieu soit manifesté. Voyez-vous ? Et alors, ce contact avec la croix, comment le vivre personnellement ? On ne pouvait pas être au Golgotha, on peut bien sûr aller devant un crucifix. Jésus a inventé beaucoup mieux. Il a inventé la messe. La messe, c'est le sacrifice du Christ sur la croix, qui nous est rendu présent. Il y a une contemporanéité au moment du sacrifice de la croix entre ce qui s'est passé il y a 2000 ans en arrière et ce que nous vivons durant toutes nos eucharisties. Au moment de la consécration, c'est-à-dire au moment où le prêtre prend le pain puis la coupe de vin et qu'il prononce ses paroles, et vous savez que ce n'est pas le prêtre qui prononce ses paroles, autrement il serait un gros menteur. Le prêtre prête sa bouche, ses mains au Christ par l'ordination sacerdotale qui est la sienne. Et c'est le Christ qui, par la bouche du prêtre, dit ces paroles qu'il a dites une fois pour toutes le jeudi saint, en disant « Ceci est ma chair livrée, ceci est la coupe de mon sang versée pour le salut du monde. » Et à ce moment précis de la liturgie, 2000 ans d'histoire sont balayés. Nous sommes contemporains de la croix. Nous sommes au pied de la croix avec Marie et Jean au Golgotha. Pas physiquement, bien sûr, on ne remonte pas le temps, mais spirituellement et réellement, nous sommes contemporains du mystère de la croix. La messe est un authentique sacrifice qui nous rend contemporains du sacrifice de la croix. La violence qui s'est déroulée le vendredi saint contre le Christ nous est rendue dans la douceur de la liturgie. N'empêche. Regardez, Jésus a pris du pain et a dit « Ceci est mon corps livré ». Il a pris une coupe de vin, il a dit « Ceci est la coupe de mon sang ». Voyez-vous, pas besoin de s'appeler inspecteur Maigret ou Starsky Hutch pour comprendre que quand vous avez le corps d'un côté et le sang de l'autre, il s'est passé quelque chose de violent. Imaginez que, au moment de la consécration, quelqu'un prenne son portable, vous appelez la police. Police, je suis en face d'une scène inimaginable. Il y a le corps d'un côté, il y a le sang de l'autre. Ne touchez rien, la police scientifique arrive. Où êtes-vous ? À l'église de Notre-Dame de Tirrenbach. Ah bon, dans une église? Oui, dans une église. Où? Venez dans le cœur, vous verrez. Alors, les sirènes et tout ça, c'est où? Sur l'autel. Et la police a dit, mais vous vous moquez de nous? Ben non, il y a le corps d'un côté, il y a le sang de l'autre. Il s'est passé quelque chose de violent. La violence de la croix nous est signifiée dans la douceur, j'allais dire, de cette liturgie eucharistique, mais qui nous dit bien la violence. C'est la raison pour laquelle, au moment de la communion, et pour bien signifier que nous communions au Christ ressuscité, eh bien, le prêtre va prendre une parcelle d'hostie et la mettre dans la coupe du sang du Christ pour montrer que c'est le Christ, vrai Dieu, vrai homme, avec toute son humanité, son corps et son âme, avec toute sa divinité, le Christ ressuscité, vivant, qu'il a. N'empêche, deuxième n'empêche, il est là sous les stigmates de sa passion, dans l'abaissement eucharistique. Saint Paul nous dit dans l'Épître aux Philippiens, « Lui, de condition divine, n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit, prenant condition d'esclave, se faisant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. » On voit cette vertigineuse descente de Dieu qui se fait homme, enfant, zygote dans le sein de la Vierge Marie, enfant crucifié. Et on pourrait dire que cet abaissement, en langage technique, on appelle la kénose, un Dieu qui se vide de lui-même, que cet extraordinaire abaissement ira jusqu'à l'hostie. Là, véritablement, je disais tout à l'heure, cette prophétie du prophète Isaïe, il n'a plus le visage d'homme ni les traits d'un fils d'Adam, est vraiment réalisé. Sur la croix, bien sûr qu'il est défiguré par les coups et les crachats, les violences, mais là, il n'a plus le visage d'homme ni les traits d'un fils d'Adam. Et nous nous prosternons devant ce Dieu qui est là. Voyez-vous, et ça montre jusqu'où il est descendu pour nous ramasser, pour nous relever, pour nous rattraper, pour nous saisir, pour nous empoigner. Et pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Prenez, mangez, prenez, buvez. De l'intérieur, je vous saisis, je vous empoigne et je vous relève et je vous fais sortir de vos tombeaux avec moi, vivant. Voilà l'extraordinaire mystère qui se passe. Le mystère qui s'est produit le jeudi saint à l'institution de Castille, le vendredi saint, est un même mystère. C'est un même moment spirituel. Le mystère du jeudi saint, où Jésus librement prend du pain et prend le vin, éclaire l'extraordinaire liberté avec laquelle il va donner sa vie le lendemain. « Ma vie, personne ne la prend, je la donne librement. » Et Jésus dira à Catherine de Sienne, « Ce ne sont pas les clous qui me tiennent sur la croix, c'est l'amour. C'est l'amour qui me tient fiché sur la croix. » Et puis, de la même manière, ce qui se passe le vendredi éclaire la vérité des paroles qui sont prononcées par le Christ. « Ceci est ma chair, ceci est mon sang. » Vous savez, je fais juste une petite parenthèse, mais la liturgie eucharistique, la liturgie pascale, au cours de laquelle le Christ prendra le pain et le vin, était une liturgie extrêmement codifiée dans le peuple juif. Assez libre, mais on ne parlait que de Dieu ou à Dieu, ou de choses de Dieu, sur un ton d'une voix douce, avec 15 étapes extrêmement structurées. Et le pain que va prendre Jésus n'est pas n'importe quel pain. On a eu un petit peu l'image que Jésus, au cours d'un pique-nique avec ses copains, avait pris du pain, avait dit « Prenez, à propos, prenez, c'est ma chair, prenez, c'est la coupe de mon sang. » Pas du tout. Au début d'un repas juif du Seder, le père de famille qui préside le repas, ou celui qui préside le repas, prend un pain qu'il divise, un pain sans levain, un pain azim, qui était le pain de la précipitation, de la sortie d'Égypte, de la libération, de la liberté, le couper en 3 morceaux. Et empiler les 3 morceaux dans un premier temps pour faire une bénédiction sur ce pain. Le morceau de dessous était l'humanité, le morceau de dessus était Dieu, et le morceau du milieu était le grand prêtre qui fait l'alliance, enfin qui fait le lien entre Dieu et les hommes. Immédiatement après la bénédiction, le père de famille retire le morceau du milieu, le morceau du grand prêtre, le cache dans un linge, un linceul si vous voulez, et va le cacher quelque part dans la maison. Et le morceau du milieu, le grand prêtre, n'est plus là pendant tout le repas. À la fin du repas, le père, ou celui qui préside le repas, invite les enfants à aller rechercher le grand prêtre, le morceau, qu'on appelle l'afikoman. Afikoman veut dire le dessert, ce qui en plus, les jeunes diraient en rab, ce qui est inutile, mais quand même c'est très important. D'ailleurs, les peuples, les juifs, les rabbins se disent, mais pourquoi devons-nous manger l'afikoman à la fin du repas? La loi précise qu'à la fin d'un repas, on ne mange plus. Or, il faut manger ce pain qui ne nourrit pas physiquement. Il est pour rien du tout. Le repas est terminé et on nous dit qu'il faut manger l'afikoman alors que ce n'est pas pour notre estomac et que le repas est terminé, qu'il est interdit de manger après le repas. Donc ça viole toutes les règles du repas. Et les rabbins disent, on ne sait pas pourquoi. Mais il n'y a qu'une raison, c'est que Dieu a commandé. Alors faisons-le. C'est un hoc, disent les Hébreux, c'est un mystère, un immense mystère, ce pain qu'il va falloir manger à la fin du repas, qui n'est pas pour la faim, parce qu'on a déjà mangé, et qu'on mange à un moment donné en dehors du repas, et qui porte en lui-même un mystère incroyable, c'est le grand prêtre. Dans la tradition juive, quand les enfants avaient découvert ce pain mystérieux, on appelle aussi le pain caché, anikrufias en grec, eh bien, un enfant courait à la porte dans certaines traditions juives pour voir si le Messie était arrivé. Ce pain, la découverte de ce pain signifiait l'arrivée du Messie. Et ils ouvraient la porte et il n'était pas là. Alors on disait, oh, c'est vraiment dommage, il n'est pas là, peut-être l'année prochaine. Et donc, on mangeait à ce moment-là ce pain, anikrufias, cet afikoman. C'est ce pain-là que Jésus va prendre. Celui qui signifie le grand prêtre. Un pain caché qui réapparaît après avoir passé un moment dans un drap blanc, dans un linceul. Un pain qui signifie le Messie qu'on attend. Vous voyez, toute la symbolique dont était chargé ce pain. Et Jésus dit, prenez, c'est ma chair. Prenez, c'est mon sang. Après. La dernière coupe qu'on buvait, la troisième coupe, c'est la troisième coupe qui vient juste après la coupe de la fin totale du repas, était la coupe où l'on prononçait les paroles de la libération. Dieu nous a délivrés à bras étendus de la servitude d'Égypte. Dieu nous a délivrés à bras étendus de la servitude d'Égypte. Vous voyez donc, dans la tradition juive, depuis des siècles, le cédère remonte bien sûr à Moïse, 1250 ans avant Jésus-Christ, mais toutes les traditions se sont ajoutées au fil des siècles, donc elles ne datent pas toutes de ce moment-là. Mais voilà, on célébrait ça et tout prend sens avec le Christ. Alors tout d'un coup, sur l'autel, Jésus est présent. Il est là. Ce n'est plus du pain, ce n'est plus du vin, c'est Jésus-Christ. J'ai un ami qui est prêtre aujourd'hui, qui était à l'époque jeune servant de messe, c'était avant le concile, et il me raconte que un jour, son vieux curé, qui était très pieux et très dévot, mais très handicapé aussi, au moment de la consécration, après avoir fait l'élévation, pose le corps du Christ sur la patène, met ses deux coudes sur l'autel pour faire la génuflexion, et il se relève, et il n'y avait plus d'hostie sur la patène. Elle était rentrée dans la manche de l'aube, plus d'hostie. Il se retourne vers la servante de messe et lui dit, bon sang, il est où le bon Dieu? Et le servant de messe, tout heureux de pouvoir répondre à la question du catéchiste qu'il avait appris quelques jours auparavant, répond très fort en se redressant, « Monsieur le curé, au ciel, sur terre et en tout lieu !» Et le curé dit, « Non, pas celui-là, l'autre !» Alors le curé connaissait son catéchiste, bien sûr. Celui qui est au ciel, sur terre et en tout lieu, c'est le même qui est sur l'autel. Voyez-vous, il avait dit l'expression, « Où est le bon Dieu ? Où est le bon Dieu ? Où est le bon Dieu ?» On va le retrouver, hein. Il est là, le bon Dieu est là. Et voilà le grand mystère de cette présence réelle, le Christ est présent. C'est une bienheureuse Dina Bélanger qui est canadienne, que Jean-Paul II a béatifiée, et qui disait, si les chrétiens se rendaient compte de ce qui se passe, eh bien, ils courraient au tabernacle. On devrait mettre des gardes du corps dans les tabernacles, dans les églises, parce que les gens se précipiteraient pour aller voir leur Sauveur, leur Rédempteur, leur Dieu qui est là, dans la pauvreté, dans la simplicité de la petite hostie. Hein, voyez-vous, alors, deux aspects qui vont être liés, le sacrifice de la messe, qui à lui seul bouleverse l'univers. Si le sacrifice de la croix a fait chavirer l'univers, entre le Big Bang d'il y a 14 milliards d'années en arrière et la venue en gloire du Christ à la fin des temps, il y a un axe charnière que Jean-Paul II a appelé le solstice cosmique de l'univers, qui est le mystère de la Pâque de Jésus, et qui est la croix plantée, qui est le sacrifice d'amour. Et j'allais dire, tout change dans l'histoire du cosmos, dans l'histoire des hommes, depuis cet instant-là. Il y a eu un ébranlement complet de l'histoire du monde qui s'est produite par le sacrifice du Christ au Golgotha. Et cet ébranlement continue aujourd'hui sur les autels. Ce qui faisait dire à saint Padre Pio, il est plus facile au monde de survivre sans le soleil que sans le saint sacrifice de la messe. Et saint Thomas d'Aquin, avant lui, disait déjà, le sacrifice de la messe est aussi fécond que le sacrifice de la croix. Thérèse d'Avila disait aussi, eh bien, que deviendrions-nous s'il n'y avait pas le sacrifice de la messe? Le monde est suspendu au sacrifice de la messe. Il y a une sorte de rayonnement qui se fait à partir de là, au point que Benoît XVI a osé utiliser l'expression, lorsqu'il était à Cologne avec les jeunes, l'image de la fission nucléaire. Autrement dit, il y a une bombe A qui explose sur l'autel. Bombe A, bombe d'amour, hein, on s'entend. Bombe A qui explose et qui irradie le monde entier, et qui porte le monde entier, et qui tient le monde entier. À chaque messe, à chaque sacrifice de la messe, il y a quelque chose qui se produit, où qu'elle se fasse, où qu'elle soit célébrée. C'est le secrétaire du bienheureux Jean XXIII qui dit la chose suivante, Monseigneur Loris Capovilla. Les médecins visitent le cher pape au mois de mai 63, donc un peu avant la mort de quelques semaines, quelques jours peut-être avant la mort de Jean XXIII. Et les médecins lui disent, afin de vous soustraire à la fatigue, nous vous recommandons de ne plus célébrer la messe. Et alors, Jean XXIII répond, ce n'est pas à la fatigue que vous me soustrayez, mais à mon délice quotidien. Et ensuite il dit à un de ses collaborateurs, frère Federico, combien cela me déplaît de ne pas célébrer de messe demain. Et le cher frère augustinien lui répond, mais ce lit, Saint-Père, est un autel. Et Jean XXIII dit, que je suis reconnaissant, cher frère Federico, de m'avoir transmis le message céleste auquel je m'attendais. Ce lit est un autel, l'autel demande sa victime. Me voilà, je n'ai pas peur de partir, même cette nuit, fête de l'Ascension. Et à un moment donné, il demandait de réciter le Magnificat, c'était le lundi 3 juin 63, 19h45. À ce moment même, on célébrait la messe et les cloches sonnaient à la basilique Saint-Pierre à Rome, au moment de la consécration. Et il est parti en disant « Ite missa est ». La messe est dite. Allons voir le Père. Il y avait une sorte de communion profonde entre le sacrifice de l'autel qui était célébré à Saint-Pierre et le sacrifice du lit de Jean XXIII dans sa chambre juste à côté. Un même sacrifice qui était célébré, uni, ou plutôt son sacrifice, sa passion à lui, puisqu'il a beaucoup souffert dans les derniers jours, uni à l'unique sacrifice du Christ, irradié aussi, ou servait de canal de transmission des grâces venant de l'autel, de cette irradiation venant de l'autel. Vous voyez, la messe a cette puissance de grâce incroyable. J'ai la grâce d'aller chaque année en Chine et au Tibet avec des jeunes, et je vais dans des lieux où parfois il y a une messe par année qui est célébrée, c'est quand j'y suis. Et surtout dans les montagnes, à 3500 ou 4000 mètres d'altitude, des paysans sont là en train de garder leur bétail, et puis je débarque, on célèbre la messe dans ces lieux comme ça. C'est absolument bouleversant, vous savez. Vous arrivez là avec ces gens qui d'abord veulent se confesser. Alors, confession jusqu'à ce que mort du péché s'en suive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'horaire. On dit la messe sera à 8 heures, mais dans tous les villages, les confessions commencent à 6h30, 7h. Ça finit à 9h. Les gens prient le chapelet pendant une heure. On ne commence pas la messe, donc tout le monde n'est pas confessé. Ça va de soi. Et puis, une fois que tout le monde est confessé, alors on commence à reprier un chapelet de préparation pour l'Eucharistie et une litanie. Ça prend un petit peu de temps. Puis après, alors, on commence à célébrer la messe. Et puis une fois qu'on a fini la messe et encore un chapelet d'action de grâce, ça va de soi pour dire merci au bon Dieu, tout s'est bien fait. Et c'est bouleversant, vous savez, dans un village un jour, la police était très très vigilante, donc on n'a pas pu célébrer de messe en rassemblant plusieurs personnes. Et de 6h du matin jusqu'à midi, toutes les heures, je célébrais une messe dans différentes maisons. Et j'arrivais chez des paysans très pauvres qui me disent, vous savez, on a nos voisins, ils vont nous repérer si vous êtes chez nous dans notre maison. Est-ce qu'on peut les célébrer à l'étable, la messe? Et donc, je trouvais derrière les vaches, en train de célébrer la messe, j'avais mis une petite table derrière. Et quand il y a eu la consécration, j'ai eu un petit sourire quand même. J'ai dit à Jésus, ça te rappelle quelque chose? La crèche, tu étais là. Et c'était vraiment de voir ces gens qui pouvaient recevoir le corps du Christ, vous voyez, hein, dans ce lieu-là. Et je disais, voilà, le communisme est ébranlé. J'ai fait un acte révolutionnaire de guérilla. J'ai fait un acte de terrorisme, d'amour, en célébrant la messe sur cette terre pour irradier ce monde. On verra au ciel ce que ça veut dire. Voyez-vous, c'est tellement important. Et alors, bien sûr, c'est le prêtre qui peut célébrer l'Eucharistie, mais vous n'êtes pas absent de ce mystère. Si le prêtre, en vertu du sacrement de l'ordre, est seul habilité à agir, comme on le dit, en la personne du Christ, in persona Christi, vous pouvez vous aussi agir. Et c'est un merveilleux chantre de l'Eucharistie et de l'Église, du cardinal Journet, Charles Journet, qui disait la chose suivante. Les laïcs pourront peut-être plus que le prêtre ne sait le faire. Suivre Jésus dans le mystère rendu présent de son agonie en croix. Descendre dans la tragédie de leur époque. Et prendre sur eux la détresse illimitée de l'humanité pour en charger l'hostie même que le prêtre tient en ses mains. Ils sembleront en quelque sorte la lui ravir pour la présenter moins indignement que lui au Père céleste et l'élever plus haut vers le ciel. Donc vous pouvez piquer l'hostie des mains des prêtres, pas physiquement, vous restez à votre place, tranquille, ne bougez pas la consécration, pas l'élévation, mais spirituellement, vous pouvez saisir avec votre désir, avec votre faim, votre soif, le Christ, le lever encore plus haut que le prêtre ne pourra jamais le faire avec son corps, par votre désir, vers le ciel, et ouvrir les écluses du ciel pour que la miséricorde de Dieu se répande, par le Christ qui ne cesse de prier et d'intercéder pour nous, en criant « Père, fais miséricorde à ce monde ». Voilà ce qui se passe à l'élévation, à la messe, et ce qu'on appelle la doxologie finale, quand le prêtre dit « Par lui, avec lui et en lui ». Le Christ est élevé, corps et sang, vers le Père, et c'est la clé qui ouvre les écluses du ciel. À ce moment-là, il y a comme ce canal qui passe du ciel à la terre, et qui, par cette élévation du Christ, attire tout l'univers, toute l'humanité, par l'humanité, tout le cosmos, vers le Père, et en même temps permet à la miséricorde du Père de se répandre par toutes les failles des cœurs, par toutes les failles des âmes, dans les endroits les plus secrets et les plus inattendus, chez ceux qui attendent et ceux qui n'espèrent plus. Voilà, la grâce va descendre. Et ça, c'est le grand mystère de l'Alliance à ce moment-là, voyez-vous. Nous sommes dans les noces de l'agneau. Nous sommes dans les noces de l'agneau. Il y a un jour, trois filles qui étaient devant une devanture de bijouterie et fascinées par ce qu'elles voyaient. Et la première dit, écoute, moi cette rivière de diamants avec le diadème et les boucles d'oreilles, oh, mais ça irait à merveille avec ma robe de soirée rose et les fleurs, mais tu sais, mais... Oh. Et l'autre dit, mais moi c'est plutôt les émeraudes, le vert là, moi je trouve que ça irait bien avec les derniers habits que j'ai achetés, tu vois, il y a cette rivière, il y a aussi ces bracelets, il y a la broche, enfin, oulala, ça irait vraiment bien. Puis la troisième ne disait rien. Et à un moment donné, les autres disent, et toi, qu'est-ce qui te plairait? Et la troisième dit, ben moi j'aimerais épouser le fils du bijoutier. Comme ça, tous les trésors seraient à moi. Eh bien, c'est ce qu'on fait à la messe, voyez-vous. On épouse le fils de Dieu. Notre âme devient l'épousée. Tout le cantique des cantiques qui parle de ce fiancé, de cette fiancée, signifie le Christ et l'Église, mais signifie aussi notre âme avec l'époux de nos âmes, qui est le Christ. Et ces noces, elles sont célébrées à la croix, mais aussi au sacrifice de la messe. Nous sommes au banquet des noces. Bienheureux les invités au repas de noces de l'agneau. Voilà, vous allez recevoir le corps du Christ et le sang du Christ. Et j'en viens justement à cette Eucharistie. On a vu la présence réelle au moment où les paroles sont prononcées. Ceci est mon corps livré. Et bien à ce moment-là, le pain devient le corps du Christ. Il n'y a plus de pain. Il n'y a que l'apparence du pain. Ce miracle s'appelle, depuis le XIIIe siècle, la transsubstantiation. J'en dirai un mot tout à l'heure sur la raison pour laquelle on a défini ça au IVe Concile de Latran en 1215. Mais dès le début du christianisme, on a su que c'était le corps du Christ. On n'a pas mis en doute cela, à part quelques hérésies. Mais on a su que c'était là. On appelait ça la métamorphose ou la conversion, selon les mots grecs ou latins. Le pain devient, se convertit, change et devient le corps du Christ. Le vin change, se convertit, se métamorphose, devient le sang du Christ. Et il n'y a plus de pain, il n'y a plus de vin, il n'y a plus que les apparences. Mais c'est le Christ qui est là, réellement présent. Dans la pauvreté, dans cette humilité, j'allais dire. Et voyez-vous, cette humilité de Dieu, cette descente de Dieu, c'est la raison même de la véracité de la foi chrétienne. S'il fallait en trouver une pour discuter avec les gens du monde, ce serait celle-ci. Aucune religion n'avait inventé un Dieu pauvre. Depuis le début de l'humanité, l'idée que Dieu existe n'a jamais été une question pour l'humanité. L'athéisme a pu naître qu'en Occident et récemment. Un monde sans Dieu est impossible à penser. Impossible. Il faut vraiment se faire violence à la raison. Mais le Dieu auquel l'humanité a pensé au fil des siècles était un Dieu tout-puissant, ça va de soi. Quand on voyait la création, il a dû faire ça, il est balèze. Et en même temps, vous en tirez un intérêt quand même. Si on lui fait des sacrifices, si on lui donne quelque chose, toute sa puissance et sa force peut être mis aussi à mon service. C'est pas mal. Un dieu démuni. Le dieu désarmé, Yahvé Shabaoth, comme on dit en hébreu, le dieu désarmé qui remporte les victoires glorieuses sur ses ennemis, voilà qu'il devient désarmé, en un mot, pauvre, vulnérable. Et ça, c'est inimaginable pour la raison humaine. Il fallait que Dieu, fou d'amour pour l'homme, se révèle, et c'est une révélation, dans une telle pauvreté. Aucune religion n'a inventé un Dieu pauvre. Et c'est la raison pour laquelle seule la culture chrétienne a pu rejeter Dieu. Parce que Dieu fait toujours peur quelque part, dans toutes les cultures et toutes les religions. Il ne faut pas se fâcher avec lui, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Sauf quand ce Dieu est un petit bébé dans une crèche, un crucifié entre trois clous sur une croix, et qui a pris l'apparence d'un bout de pain dans une petite boîte, dans les églises, ou sur un autel. Alors oui, là on peut lui dire « dégage ». Et c'est pour ça que Nietzsche, le philosophe Nietzsche, disait « Dieu est mort, mais c'est vous les chrétiens qui l'avez tué ». Vous avez osé présenter un Dieu pauvre. Moi, je voulais un Dieu puissant qui exalte ma capacité créatrice. Il vous a présenté un Dieu tout pauvre. Voilà. Et c'est notre grande grâce, voyez-vous. C'est que Dieu est descendu pour nous relever. On ne peut pas tomber plus bas que lui. Dans mon ermitage, où j'ai vécu 5 ans, où il y avait 480 marches d'escalier dans une falaise de rocher pour y accéder. C'était au milieu d'une paroi de rocher. Et il y a une petite grotte et puis un petit mur qui fermait l'ermitage. Et un jour, je vois arriver une fille au sommet des escaliers. Elle avait monté les 480 marches. Elle avait une tête, mais une tristesse. Vous savez, la bouche à 7h25, comme ça, tout en bas. Et quand je l'ai vue, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'est pas mon genre, rassurez-vous habituellement, mais je l'ai prise par les épaules et j'ai dit, tu sais que tu es belle, Dieu t'aime et je t'aime. Elle m'a dit bien plus tard qu'en psychothérapie familiale, son père lui avait dit, tu peux crever, j'en ai rien à faire. Elle avait donc fait 5 tentatives de suicide et ce jour-là, ce que je ne savais pas et que j'ai appris bien plus tard, elle avait un pistolet dans son sac. Elle s'était dit qu'avec une balle dans la tête et 135 mètres de chute à pic, elle n'allait pas se louper. On a passé 3 heures ensemble. Elle parlait à peine. Elle m'a juste dit qu'elle ne croyait pas en Jésus. Elle est venue le deuxième jour, troisième jour. Le troisième jour, je dis, c'était trop cassé. Il n'y a qu'une chose qui peut te relever, c'est de te laisser regarder par Jésus. Je dis, mais je t'ai dit que j'y croyais pas à ton Jésus. Je dis, mais ça fait rien, lui, crois en toi. Je dis, mais ça veut dire quoi, se laisser regarder par Jésus? Je dis, ben, tu vois, moi je passe des nuits d'adoration à la chapelle, ici à côté, devant un petit truc rond, c'est blanc, ça ressemble à du pain, mais c'est pas du pain, c'est Jésus. Et lui te regarde, et tu peux le regarder. Et tu peux venir passer quelques heures ou une nuit, si tu veux, là. Et puis elle est partie au pas de course. Je dis, bon, j'étais un peu fort, peut-être. Une heure après, elle revient, elle me dit, pour ton histoire, là, ok, mais 9 nuits. Alors j'ai après appris que sa grand-mère faisait des neuvaines, et qu'elle voyait la magie des neuvaines. Bref, elle est venue la première nuit de 10h du soir à 6h du matin, les yeux fixés sur le ciel, elle ne bougeait pas. Et elle a fait les 9 nuits après. Et à la fin, elle m'a écrit cette phrase bouleversante. « Nicolas, j'étais tombé si bas, qu'au fond du gouffre, je me suis cassé le nez sur Jésus. Et comme un trampoline, il m'a renvoyé à la lumière. Je me trouvais moche, nulle et conne. Et il m'a dit, tu as du prix à mes yeux, tu es belle et tu comptes. » elle a fait sa confirmation 6 mois plus tard, elle a passé son bac, elle a fait de la médecine après. Par ce regard d'amour de Jésus avait été posé sur elle. Et ce qui m'a frappé, c'est au fond du bac, tout au fond du trou, du gouffre, de l'abîme, tout au fond, casser le nez sur Jésus. Plus bas, personne pourra lui ravir la dernière place, voyez-vous. Il l'a prise, il l'assume, mais pas pour la conserver, pour nous renvoyer à la lumière, pour nous faire rebondir avec lui et nous faire sortir de nos tombeaux. Voilà l'extraordinaire miracle qui se produit. Alors, la communion eucharistique, prenez, mangez. Vous savez, quand Jésus, après avoir multiplié les pains sur la montagne, après le discours sur la montagne, après avoir traversé le lac de Tibériade, sans doute en marchant sur les eaux, car il n'est pas venu à pied, pas en bateau, voilà que ce cher Jésus arrive à Capharnaüm, la foule est là, et commence à faire ce fabuleux mais terrible discours de Jean 6. Vous savez, le discours sur le pain de vie, le DIRCOM de Jésus, le directeur de communication, était très content. Le coût des 5 pains et des 2 poissons avec 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ça c'est bon pour la com. Le coût de marcher sur les eaux, de maintenir le mystère, ça c'est excellent. Jésus continue, on les aura. Et voilà que Jésus casse tout. Il leur dit, vous êtes venus parce que vous avez mangé du pain. Vos pères dans le désert ont mangé le pain aussi, ils sont morts. Et moi j'ai le pain avec lequel vous ne mourrez pas. Oh, ben super, génial, donne-le-nous, comme ça on n'a plus besoin d'aller acheter du pain. Je suis, moi, le pain vivant descendu du ciel. Alors là, ça commence à chauffer. Ma chair est vraie nourriture, mon sang est vrai breuvage. » Et les gens disent, mais cette fois-ci, et le dire comme il n'est pas content, vous imaginez, parce qu'il casse tout là. Manger la chair de quelqu'un, boire le sang de quelqu'un, pour un juif, c'est inimaginable. Et Jésus continue. Il ne fait pas dans la communication, il fait dans la vérité, voyez-vous. Ma chair est vraie nourriture. Qui ne mange pas la chair du Fils de l'homme, ne boit pas son sang, n'a pas la vie en lui. Et à ce moment-là, alors, ça explose complètement. On s'échauffa, nous dit le texte de l'Écriture. Et ce qui est très frappant, c'est que quand on regarde le texte grec qui est utilisé dans ce chapitre 6 de Saint Jean, les premiers mots qui sont utilisés pour dire manger, c'est le verbe qu'on utilise en grec pour dire manger, comme on mange à table. Le mot grec, pour ceux qui en ont fait, c'est phagein. Et voilà que, à ce moment-là, quand ça chauffe, Jésus va changer de verbe. L'Esprit Saint, par la plume de Saint Jean, mais dans la bouche de Jésus, donc l'Esprit Saint, l'auteur de l'Écriture sainte, met un autre verbe à la place. Et cet autre verbe a une signification assez particulière. C'est broyer avec les dents en faisant du bruit. C'est chewing-gumé, c'est mâcher avec force le corps du Christ. Ce qu'on nous a tous appris à ne pas faire quand on était petit. Tu fermes la bouche, tu manges correctement. Et donc, plutôt que d'atténuer le scandale qui est en train de se produire, Jésus accentue le scandale. Ce verbe, qui est trogein en grec, revient que 5 fois dans l'évangile de Saint Jean. 4 fois dans ce discours au pain de vie et 1 fois quand il s'agit de Judas qui mange le pain avec lui. C'est le même verbe qui est utilisé. Il revient qu'une fois dans tous les évangiles, c'est chez Saint Matthieu, quand on disait qu'à l'époque de Sodome et Gomorre, on bouffait. Parce que le mot trogein veut dire manger pour un animal pratiquement. C'est fressen en allemand. C'est pas essen, c'est fressen. Voilà. Hein? Et donc, c'est ce verbe-là qui est utilisé par Jésus à ce moment-là. Vous imaginez ? Pour insister sur le réalisme, si l'on ne mange pas la chair du Fils de l'homme, si on ne boit pas son sang, on n'a pas la vie en lui. Et donc, il y a ce désir de l'Eucharistie, voilà, de vouloir manger la chair du Fils de l'homme. En Chine encore cet été, j'arrive dans une petite ville, je n'avais pas visité l'année dernière parce que la police nous avait arrêtés. Et dans cette petite ville, il n'y a pas d'église, il n'y a rien, il y a 4-5 vieilles grand-mamans qui tiennent la foi. Et puis quelques jeunes que j'ai baptisés là-bas et qui ont la foi aussi. Enfin, c'est merveilleux. Et puis je débarque chez cette grand-maman chez qui on se retrouve habituellement. Alors elle nous accueille avec beaucoup de joie. Et je dis, ben, on pourra célébrer la messe. Vous avez une messe depuis que j'étais venu il y a 2 ans. Elle dit, non, aucun, personne ne sait qu'on existe pratiquement. Alors je dis, ben, c'est un grand cadeau. Elle dit, oh, mais vous savez, moi je communique quand même tous les jours. Ah, je dis, ah bon ? Où elle a caché le Saint-Sacrement, il y a le tabernacle caché. Et elle me dit, et des mains du pape. Alors je la regarde un petit peu en disant, cette fois-ci, elle a peut-être l'Alzheimer. Eh bien, pas du tout. Elle me montre à ce moment-là, contre la paroi de son petit salon, un poster de Benoît XVI. Dimanche des Rameaux, 2007, place Saint-Pierre de Rome, en rouge. Le pape en train de donner la communion à une petite fille. Elle me dit, tous les jours, je m'assieds sur le divan, je regarde le pape qui donne la communion, je prépare mon cœur, j'ouvre la bouche et je dis à Jésus, il faut que tu descendes en moi. Et après, je dis merci d'être venu. Tous les jours, elle faisait une communion de désir en face de ce poster très grand de Benoît XVI donnant la communion. Alors je dis, ça, c'est pas mal ça. Vous voyez, dans la communion, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect sacramentel de recevoir la chair du Fils de Dieu, le corps du Christ. Le corps du Christ, on vous dit. Et vous dites Amen. Sang du Christ, on dit Amen. Ça, c'est la communion sacramentelle. Mais c'est pas magique. Si vraiment, par le seul fait que le sacrement est posé, que la consécration a lieu, Jésus se rend présent. Si le prêtre a l'intention de faire ce que l'Église demande de faire, ou s'il a l'intention de ne pas faire autre chose que ce que l'Église demande de faire, Jésus est là. Il agit. Quant à la communion, il va falloir notre désir. Il va falloir notre désir. Si je n'ai pas le désir, il n'y a rien qui va se passer. Nous étions en montagne avec des jeunes en été. Quelqu'un avait oublié de remplir sa gourde. Et alors il est arrivé, il y avait une belle cascade à un moment donné qui descendait du rocher. On a pris, il est allé avec sa gourde, il l'a mis sous l'eau et il a rempli sa gourde et il a bu. Et je me suis dit à ce moment-là, et s'il avait mis la gourde à l'envers, combien de temps aurait-il fallu pour que la gourde se remplisse ? Vous avez tous compris, c'est pas possible. Et il aurait pu regarder au bout de 2 heures en disant, mais elle est toujours vide. Il la remet Et 2 heures après, il la ressort et dit « Donc, il n'y avait pas d'eau ici. » Non, c'est lui qui était une gourde. Il fallait juste la retourner un petit peu. Et voyez-vous, nous sommes à la source de la grâce. Dieu communique sa grâce par les sacrements. Dieu donne sa vie par les sacrements. Et quand nous venons à l'Eucharistie communier, nous recevons la vie divine. Nous recevons cette grâce qui descend nous, l'Eucharistie, le sacrement de l'accroissement de la charité théologale en nos cœurs. Encore faut-il désirer. Encore faut-il avoir faim et soif. Venez, vous tous qui avez faim. Venez, vous tous qui avez soif. Si vous n'avez pas faim, pas soif, bien vous ne pourrez pas goûter la joie et le bonheur. Et donc, il faut se faire capacité, comme disait Jésus à Catherine de Sienne, et lui se fait torrent, torrent de grâce. Il y a des années en arrière aussi, je faisais de la montagne. Nous étions en Calanque à Marseille avec des amis. Et puis, on n'avait plus rien à manger. Il nous restait 4 oranges. On était 4. Un soir, on s'est dit, on garde des oranges pour demain matin. On fera une voie d'escalade de bonheur. On mangera nos oranges au sommet. Puis, on ira prendre un bon petit déjeuner à la Calanque, un peu plus loin, un petit village de la Calanque. Le plan était super, sauf que la voie d'escalade était très difficile, que nous étions fatigués et qu'un des amis restait coincé dans la voie. Plutôt que de sortir à 8 heures du matin, il est sorti à 2 heures de l'après-midi. On a dû le tirer dehors, comme ça. Il hurlait dans la voie. Rien à manger, rien à boire depuis la veille à midi, avec un effort physique quand même intense. On avait conservé son orange en haut. Et je vois toujours arriver en haut en voyant l'orange. Vous savez, les yeux ont fait comme dans les dessins animés. Ils ont commencé à bouger comme ça. Il a rampé jusqu'à l'orange. Et il a pris l'orange et il l'a avalé avec la pelure. Et ça m'a vraiment marqué, cette image-là. Et je me dis, mais c'est peut-être ça, la communion eucharistique, voyez-vous. Si nous allions en procession de la même manière, parce que le corps du Christ est quand même mieux qu'une orange, vous imaginez, hein? Alors, de nouveau, pas physiquement, ne rampez pas au milieu de l'allée, ça fait un peu désordre à la messe. Mais dans votre cœur, le désir, la faim, la soif du corps du Christ. Hein, c'est ça. Au mouroir de Mère Thérésa, un jour, il y avait le seul catholique qui était là, dans le mouroir, et puis je passais du temps avec lui. Il souffrait énormément, il était aveugle. Et un jour, je lui dis, je demande de prier pour moi. Et puis, il bouge sa tête d'un air un peu ferme et il me dit, pas seulement pour vous, pour toute l'humanité. Alors, je dis, je fais partie de l'humanité, c'est bien. Et alors, il me dit, vous savez, moi, la nuit, j'ai tellement mal que j'arrive pas à dormir. Alors, je prie pour tout ce que je connais dans le monde, toutes les régions du monde, tout y passe pendant la nuit. Puis, il me disait tous les jours, est-ce qu'il perdait un peu quand même la tête comme ça. Enfin, il n'y a plus la notion du temps, en tout cas. Et il me disait, est-ce qu'il y a la messe aujourd'hui? Je dis, non, c'est dimanche, la messe, ici. Vous dites au prêtre de m'apporter l'Eucharistie. Je dis, oui, je dirais au prêtre, j'étais encore pas prêtre à l'époque. Et le dimanche matin, j'arrive, je dis, voilà, il y a la messe aujourd'hui. Vous dites, oui, je dis, c'est bon, c'est déjà dit. Il me dit, parce que vous savez, je crois plus à l'Eucharistie qu'à tous les médicaments que les sœurs, elles me donnent ici. Elles sont gentilles, les sœurs, mais enfin, moi, je vais bientôt partir. Plus besoin de médicaments, j'ai besoin du corps du Christ. Alors, au moment où le prêtre arrive, il était complètement, enfin je dis handicapé, des douleurs au dos énormes, donc, du coup on ne pouvait pas le bouger, on le lavait sur son lit. Et quand j'ai dit le prêtre arrive, j'ai le touché, j'ai dit le prêtre arrive, il s'est redressé sur son lit avec son dos tout raide, je ne sais pas comment il a fait. Et il avait la bouche ouverte en se tournant de tous les côtés parce qu'il n'y avait pas d'où arriver le corps du Christ. Donc il avait piste d'atterrissage de Jésus, vous savez, qui était là, et il regardait. Et il a reçu le corps du Christ, comme ça. Et je peux vous dire, vous voyez une personne communier comme ça, vous dites, il a compris quelque chose du mystère. Il a reçu sa force, son secours, sa consolation. Voilà. Alors la communion, c'est ça, c'est de recevoir le corps du Christ, de désirer ardemment recevoir Jésus. Dans cette double dimension du sacrement de l'Eucharistie, le sacrement, la dimension sacramentelle, c'est la réception effective du corps du Christ à la messe ou en dehors de la messe dans certaines circonstances, et puis la communion de désir qui est toujours nécessaire. Et si la communion sacramentelle ne peut pas avoir lieu, alors la communion de désir peut toujours exister, voyez-vous. Et ça, c'est extraordinaire. Je pourrais toujours désirer recevoir mon Dieu. On parlait de l'archiduc d'Autriche qui va venir ici dans 15 jours, un de ses illustres ancêtres, pas parmi les empereurs mais encore avant le régime impérial, avait chuté il était parti à cheval et son cheval était parti dans un précipice et lui était au fond du trou, personne ne pouvait descendre pour le sauver, il agonisait en bas et dit, allez chercher un prêtre, amenez l'ostensoir Je veux communier de désir avant de mourir. » Alors le prêtre est arrivé, il s'est mis au bord du précipice, il tenait l'encensoir en bas, lui était allé au fond du gouffre, au fond du précipice, à regarder l'hostie, et il est mort en communion de désir, comme ça. Voilà, il ne pouvait pas recevoir le saint viatique, le sacrement du passage, du voyage, alors il a communié de désir de cette manière-ci. Voyez-vous, ça, c'est la faim et la soif de Jésus, la communion eucharistique. Et puis, l'eucharistie ne s'arrête pas là. S'il y a présence réelle de Jésus, s'il y a réellement présence du Saint-Sacrement, alors il y a aussi l'adoration qui peut suivre. Je vous ai dit, à partir du XIe siècle, on a mis en cause la présence réelle du Christ de manière assez forte, notamment Béranger de Tours, un théologien, qui a dit « mais c'est pas possible que Jésus soit là, présent, sous l'apparence d'un bout de pain et d'un peu de vin ». Et les théologiens ont répondu, la réponse ultime est venue par le concile de Latran IV, je vous l'ai dit, en 1215, et ensuite par les travaux de saint Thomas d'Aquin, qui synthétisaient des travaux antérieurs d'ailleurs, et des pères de l'Église, et de saint Bonaventure. Mais le peuple de Dieu a décidé de répondre à cette crise en disant « on veut voir Jésus, on veut le voir, montrez-le-nous ». Et donc on a commencé l'élévation à la messe, la première à la consécration, puis la deuxième à la doxologie finale, et on a commencé à s'agenouiller à la liturgie. Et alors il y a eu un procès très célèbre à Montpellier, parce que la noblesse avait des stalles au premier rang, et quand tout le monde est encore debout dans la liturgie antique, ça posait pas de problème, mais quand on a commencé l'agenouillement, alors et qu'on voulait voir Jésus, puisqu'il n'y avait pas d'élévation avant, ben on était drôlement embêtés, on ne le voyait pas. Alors les gens ont demandé à la noblesse de décaler un peu les stalles, ils ont refusé. Et un juge a tranché, c'est le cas de dire, demandant que toutes les stalles soient coupées jusqu'à due hauteur, de façon à ce qu'une personne de taille moyenne à genoux puisse voir Jésus à l'élévation. Voilà, on n'a pas parlé de la taille du prêtre, mais enfin, voilà. En Angleterre, l'élévation durait parfois une heure. Deux savants de messe sous les bras, comme Moïse contre les Amalécites dans le désert, le turiféraire qui mettait de l'encens et à qui on criait de temps en temps « Arrête avec la fumée, on ne voit plus Jésus !» Alors après, on a commencé à séparer le moment d'adoration du sacrifice de la messe. Et donc, on a commencé l'adoration en dehors de la messe, d'abord avec des reliquaires. On enlevait les reliques, on mettait le corps du Christ à la place, puis ensuite des ostensoirs qui sont devenus l'instrument d'exposition du Christ, voyez-vous. Et dans le désir de ces gens, c'était de voir Jésus, de poser le regard sur Jésus. Il y a cette parole, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais vous savez, le Christ, reprenant des prophéties, notamment de Zacharie, dira « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Jésus est mort, la cause de la mort de Jésus, c'est notre péché. Il est mort à cause de nos péchés. Nous sommes les assassins du Christ. Notre péché qui a tué Jésus. Il y avait des gens qui ont exécuté la sentence à l'époque, mais vraiment, c'est à cause du péché qu'il est mort, de notre péché. Donc, chaque fois que nous levons les yeux vers lui, alors c'est vrai que nous sommes pécheurs et nous levons les yeux vers celui qu'on a transpercé. Mais immédiatement, le psalmiste répond au psaume 34-35, « Qui regarde vers lui resplendit sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre a crié, Dieu l'a délivré de toutes ses angoisses. Qui regarde vers lui resplendit sans ombre ni trouble au visage. » Voilà l'admirable échange qui se passe à l'adoration. Si l'on expose Jésus, c'est pour poser les yeux de chair sur le corps du Christ, à l'élévation comme à l'adoration. Sainte Gertrude d'Efta, une mystique merveilleuse du XIIIe siècle, trichait un petit peu, parce qu'à l'époque, on baissait aussi la tête à ce moment-là. Et, enfin, comme on commençait l'élévation, on n'avait pas très bien compris aussi toutes les raisons. Et dans le monastère où elle était, elle baissait la tête et elle trichait, elle regardait Jésus comme ça en baissant la tête. Puis un jour, elle dit à Jésus, « Jésus, je ne suis-je pas trop audacieuse d'oser te regarder dans ton corps très saint ?» Et Jésus lui dit, « Ah non, 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 c'est mon délice que tu me regardes. Il y aura d'ailleurs des trésors réservés au ciel pour chaque fois que tu auras posé ton regard de chair sur mon corps eucharistique. » Alors du coup, elle a fait tous les coups. Et saint Pidis a même attribué une indulgence à quiconque lèverait les yeux vers Jésus au moment de l'élévation. Parce que les gens baissaient la tête et ce n'était pas le but. On peut baisser la tête quand le prêtre s'incline, quand le prêtre fait la génuflexion devant le corps et le sang du Christ, mais avant c'est pour lever les yeux. Et alors, comme les gens baissaient la tête, Pidis a demandé, a accordé une indulgence de 300 jours à l'époque, on dirait partielle aujourd'hui, à quiconque lèverait les yeux au moment de l'élévation et poserait son regard de chair sur le corps du Christ en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il est vrai que derrière le regard de chair, c'est le regard de l'âme que nous posons, puisqu'on ne touche Dieu que par l'âme spirituelle perfectionnée par ce qu'on appelle les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité. Nous avons deux yeux dans l'âme aussi, l'intelligence et la volonté. L'intelligence qui, par la foi, va poser son regard sur le Christ en disant « Tu es là, Jésus ». Et la volonté qui, par l'attraction d'amour, va dire « Oh, je t'aime, mon Sauveur ». Et se pose un acte de foi, un acte d'amour, en regardant avec mes yeux de chair le corps du Christ à l'élévation. Et donc, je peux adorer Jésus. C'est le frère dominicain Humbert, Claude Humbert, qui raconte qu'à Dachau, parmi les 4000 prêtres qui étaient au camp de concentration, quelques-uns avaient fabriqué clandestinement un ostensoir en fil de fer barbelé. Il dit, pour nous qui étions partout environnés de barbelés, cet ostensoir prenait un sens extraordinaire. C'était le Christ couronné d'épines et partageant les nôtres. Et souvent, le corps du Christ y était exposé. J'ai passé ainsi que de nombreux prêtres, de longues heures en adoration devant lui et Notre-Dame de Dachau à sa droite. Cela m'a marqué pour la vie. Et des prêtres américains demandaient à Mère Teresa un jour, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour changer l'Amérique? Et Mère Teresa répond, vous me demandez qu'est-ce qui va convertir l'Amérique au sauver le monde? Ma réponse, c'est la prière. Il faut que chaque paroisse vienne devant Jésus au Saint-Sacrement dans des heures saintes d'adoration. Voilà le remède que proposait Mère Teresa au changement du monde. Voyez-vous, je crois qu'il faut, j'ai encore 5 minutes. Ça va, vous? Je vous ai dit, toute l'histoire de l'univers, du cosmos, converge sur le cœur du Christ, vers Jésus en croix. Ce cœur, c'est le lieu de la Pentecôte chez Saint Jean. Jésus prophétise quelques jours ou quelques semaines plutôt avant sa passion, au moment de la fête des tentes. La fête des tentes est une immense fête dans la tradition juive, la fête de Soukhot, comme on l'appelle, des tabernacles où le peuple se rappelait son séjour au désert. Et le dernier jour de la fête des tentes, le grand prêtre descendait à la fontaine de Siloé, au fond de la vallée du Cédron, en bas du temple, et remontait avec l'eau. On se souvenait du don de l'eau. Et il y avait les Alléluia, il y avait les Hosanna, Hosanna qui étaient chantés. On chantait la gloire de Dieu. Et les commentaires juifs nous disent qu'il n'a pas vu la joie de la fête de l'eau, qui clôt la fête des tentes, ne sait pas ce que c'est que la joie. C'était la fête des la joie des joies. On ne pouvait pas avoir une joie plus grande que ça. Et il y a plein de détails qui disent ça. Et à ce moment-là, Jésus crie, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, car il est écrit de son sein, jailliront des fleuves d'eau vive. Il parlait de l'Esprit Saint, que recevraient ceux qui croiraient en lui après sa glorification. Le lieu de la Pentecôte pour Saint Jean, c'est le cœur ouvert du Christ. C'est le lieu de la Pentecôte. C'est là que l'Esprit Saint est donné. Oh, il est donné au dernier souffle de Jésus, il est donné au cœur ouvert, il est donné à la résurrection quand il souffle sur les apôtres, mais essentiellement, centralement, le mystère, c'est là. Et que va faire l'Esprit Saint à ce moment-là, qui se répand de la manière la plus sobre et la plus délicate sur Marie et Jean au pied de la croix et les saintes femmes qui étaient là, sur l'Église naissante au pied de la croix, c'est faire de nous des enfants de Dieu. L'Esprit Saint va nous réapprendre à vivre comme des enfants de Dieu. De sorte qu'à chaque messe, c'est une Pentecôte. À chaque exposition du Saint-Sacrement, c'est la Pentecôte. C'est l'Esprit Saint répandu dans le monde pour ramener l'humanité rebelle et l'humanité ignorant du mystère de l'amour de Dieu vers le cœur du Père. C'est guérir l'humanité du drame que nous vivons aujourd'hui, la présomption de bâtir un monde sans Dieu et le désespoir, la désespérance de gens qui ne savent plus où taper parce qu'ils n'ont plus de sens à leur vie. À l'adoration, nous redonnons sens au monde, sens aux vies. Il y avait un grand saint, Saint-Pierre-Julien Aymard, qui disait la chose suivante au XIXe siècle, « Notre temps a perdu le sens de Dieu. » C'est-à-dire qu'un monde né, il est déjà là où ne s'affirme aucune présence spirituelle. La mobilisation s'impose donc de toutes les puissances d'adoration dont l'Église du Christ est riche. Voilà, et il disait, « J'ai souvent réfléchi au remède à cette indifférence universelle qui s'empare d'une manière effrayante de tant de catholiques. Et je n'en trouve qu'un, l'Eucharistie, l'amour de Jésus eucharistique. La perte de foi vient de la perte de l'amour. Maintenant, il faut se mettre à l'œuvre. Il faut sauver les âmes par la divine Eucharistie, réveiller la France et l'Europe engourdies dans un sommeil d'indifférence parce qu'elles ne connaissent pas le don de Dieu, Jésus, l'Emmanuel eucharistique. » C'est la torche de l'amour qu'il faut porter dans les âmes tièdes et qui se croient pieuses et ne le sont pas parce qu'elles n'ont pas établi leur centre de vie dans Jésus Eucharistie. Je vais Je veux dire, dans notre communauté, nous avons pratiquement l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement. Et il y a vraiment des miracles qui se passent. Les jeunes qui sont là se convertissent devant le Saint-Sacrement. Un jour, il y avait une fille qu'on a accueillie, 3 ans de drogue, de prostitution, de squat, de violence. Son copain était un grand dealer qui s'est fait descendre dans les rues de Genève dans un trafic de drogue. Bref, et d'une violence extrême, cette fille, à coups de batte de baseball contre la police. Et alors, un jour, un assistant social, elle avait 16 ans, vous imaginez, depuis 13 ans, elle était dans la rue. Et un jour, un assistant social me téléphone, dit « Elle aimerait venir chez vous ». Or, sa sœur, qui avait fait 5 ans d'héroïne, avait débarqué chez nous. Sa sœur finit son doctorat en philosophie aujourd'hui, après 5 ans d'héroïne, vous imaginez, bon, des étapes. Et cette sœur, je la connaissais, je l'avais vue une fois, elle nous fait péter les plombs, pardon. Je dis « Mais on ne peut pas l'accueillir, ça fait péter une maison, une fille pareille ». Il dit « Bon, ben, on la remet à la rue ». Elle vient de casser la gueule à une infirmière. L'infirmière a dû être hospitalisée, on ne peut plus la garder en HP, donc on va la remettre à la rue et les flics s'occuperont d'elle dans quelques jours. Je dis, bon, alors venez, c'est un vendredi, je me souviens, matin, je dis, ben, venez lundi soir. Elle me dit, si on la retrouve lundi, parce qu'on la met à la rue tout de suite, si on la retrouve lundi, on vous la ramène. Je dis, alors venez ce soir. Elle dit, bon, j'arrive tout de suite. Alors il débarque avec cette fille, c'était l'horreur. Je dis, mais vraiment. Et un jour, elle nous dit, vous me faites tout chier ici, moi je me casse. Je dis, écoute, tu peux te casser, je ne vais pas te retenir, mais d'abord on cause. Alors je la suis dans la chambre, elle m'envoie la porte à la figure, je bloque la porte, je rentre. Et puis elle me dit, tu dégages. Je dis, non, je ne dégage pas. Je dis qu'on causait avant que tu partes, mais je ne vais pas te retenir. Tu as un caractère tellement de cochon que pas de souci. Et puis elle commence à faire ses affaires. Je ferme la valise, je m'assieds sur la valise. Je dis, je t'ai dit, tu ne pars pas avant qu'on aille causer. Et là, elle s'approche de moi avec le poing comme ça. Alors j'enlève vite mes lunettes en disant qu'il vaut mieux un œil au beurre noir qu'un œil crevé. Et elle s'arrêtait juste devant moi en me disant, mais qu'est-ce que j'ai? Pourquoi je suis comme ça? Ah, je dis, ça c'est une bonne question. On peut parler. Puis on a discuté, puis à la fin, j'ai dit, écoute, tu sais, on continue. Elle dit, ouais, on continue. Mais moi, vos histoires du bon Dieu, je comprends rien. Je dis, mais j'ai quand même un truc à te proposer. Chaque fois que tu as envie de péter les plombs, je propose d'aller à la chapelle. Parce que Jésus, c'est le seul qui peut encore te supporter dans la maison. Tu peux crier à la chapelle, personne n'entend rien. Alors tu vas à la chapelle. Tu pètes les plombs comme tu veux et tu parles à Jésus. Dis-moi, j'y crois pas à ton histoire de petit truc rond qui est là-bas, qui est Jésus. Je dis, ça fait rien, vas-y, vas-y. Au moins, tu nous fous la paix. C'est déjà ça qu'on a gagné pour nous. C'est un acte de charité que tu poses pour nous. Et puis ensuite, ben, les choses se passeront. Et quelques temps plus tard, alors il y allait. C'était un peu plus calme dans la maison quand même. Et un soir, un après-midi, je passe dans la chapelle. Je la vois sortir de la chapelle. Se tenant la main ici, elle me dit, aïe Nicolas, aïe. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, le cœur. Je dis, saute dans la bagnole, on part à l'hôpital. Elle me dit, non, c'est pas ça, c'est l'amour de Dieu. Ah, je dis, eh ben, c'est mieux quand même. Et elle me dit, tu vois, j'étais à la chapelle, et j'ai dit, Jésus, c'est la dernière chance que je te laisse maintenant. J'en peux plus. Moi, je me suicide cette fois-ci. Et alors elle dit, tu as 1 heure à disposition. Elle s'est plantée à genoux à ça de l'ostensoir, devant l'autel. Elle m'a dit, j'ai regardé la montre, 1 heure. Je lui ai dit, tu m'as rien dit, je pars, c'est fini. Peut-être qu'on se retrouvera de l'autre côté, mais pour moi, c'est fini sur la terre. Elle dit, au moment où je me suis levé, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai senti ce coup dans le cœur, l'amour et les larmes. Je ne sais pas combien de temps je suis resté devant Nicolas. Maintenant, j'ai perdu la notion du temps. Mais Jésus m'a touché et je sais qu'il m'aime. Et ma vie a un sens maintenant. On est parti à Saint-Jacques-de-Compostelle après avec elle. Elle a acheté tous ses médics sous la grotte de Lourdes. Elle, vraiment, qu'elle n'en a pas parlé avant, je n'aurais pas laissé, mais elle l'a fait quand même. Elle passe aujourd'hui son master en sciences politiques, cette fille. Elle était candidate députée. Pour les jeunes, elle n'a pas été élue, mais enfin, elle a fait une campagne électorale l'année passée. Et je peux vous dire, elle a dit, mais je ne sais pas, c'est Nicolas, mais je sais que sans lui, je ne peux pas vivre. Et donc, tous les jours, elle a la messe ou l'adoration. Dans toutes ses études, elle a continué cette pratique spirituelle. Voyez-vous, parce que d'un coup, il y a l'expérience du Christ qui est là. Le monde va changer par l'adoration. Le monde où il est détruit par la consommation, où il est transfiguré par l'adoration. Le monde est entre sa défiguration et sa transfiguration. Et l'adoration devient le lieu de la transfiguration du monde. Transfiguration de nos cœurs, transfiguration du monde. Le monde est suspendu à l'adoration, qui est le premier acte de justice que l'homme doit à son Dieu, et qui se réalise et se concrétise dans ce lieu particulier de l'adoration eucharistique. Voilà. Et puis, dernier point, mais je vais juste le mentionner, c'est le lavement des pieds. L'Eucharistie est inséparable du lavement des pieds. Vous savez, ce n'est pas qu'un service que Jésus rend, il est service. les mots utilisés dans Saint Jean pour dire que Jésus dépose son vêtement et reprend son vêtement, les deux verbes qui sont utilisés, sont exactement les mêmes qui sont utilisés deux autres fois dans Saint Jean, quatre autres fois, enfin deux autres fois chacun, quand Jésus dit « J'ai reçu le pouvoir de la part de mon Père de déposer ma vie et de la reprendre ». Ce qui veut dire que le lavement des pieds n'est pas un job, un service que fait Jésus, mais véritablement, il est celui qui est serviteur, il est transfiguré, il dépose sa vie comme il dépose son vêtement. Il lave les pieds et il meurt sur la croix dans ce service, c'est le même geste, et il reprend sa vie comme il reprend son vêtement après avoir accompli la mission que le Père lui demandait d'accomplir, sauver les hommes. Alors voilà l'extraordinaire trésor de l'Eucharistie. On va passer à l'exercice pratique maintenant d'adorer Jésus après avoir balbutié quelques mots. C'est à vous de balbutier votre amour devant le Christ qui sera présent au milieu de nous.